Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je suis accompagnée. Nous allons aujourd'hui découvrir Emma. Emma est psychologue clinicienne, elle est récemment diplômée d'un master de psychologie clinique et de médiation thérapeutique par l'art. Elle a eu d'abord une expérience en pédopsychiatrie et maintenant elle travaille en protection de l'enfance. Aujourd'hui, Emma va aborder plusieurs sujets qu'elle rencontre dans sa clinique. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est justement être à un moment T de ses réflexions, de ses découvertes dans une clinique notamment qui concerne l'accompagnement de mineurs non accompagnés. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas, mais en tout cas, je vous laisse aller découvrir et écouter toutes les petites réflexion que nous amène Emma aujourd'hui. Salut Emma.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast et de te tendre l'oreille pour découvrir ta clinique, puisque tu m'avais écrit un mail pour me partager ton envie de mettre un petit peu à plat tes questionnements sur ton exercice en service d'accompagnement de mineurs non accompagnés, il me semble. Et quand on a eu un visio ensemble, je me souviens là il y a quelques semaines, que ça a été très rapide, puisque directement je voulais pas que tu commences à broder un peu le fil de ta réflexion en dehors de cet enregistrement, puisque je sentais que tu avais vraiment des choses à dire, à partager, et que pour le coup, je n'aborde absolument pas ou peu sur mon podcast, puisque c'est pas du tout une clinique que je rencontre dans mon exercice. Est-ce que dans un premier temps, tu peux d'ailleurs te présenter, comme tu as envie?
Du coup, je m'appelle Emma, je suis psychologue depuis quelques années, depuis finalement assez récemment. J'ai un parcours un peu particulier parce que je me destinais pas du tout à ce métier à la base. En fait, j'ai cherché à faire le lien entre une pratique artistique et du coup quelque chose plus de l'ordre du discours, du parler, des choses comme ça. Et finalement, j'en suis arrivée à ça par le biais d'un master de médiation thérapeutique par l'art, en fait, et de psychologie clinique. Et en fait, je suis arrivée un peu par hasard Donc j'ai travaillé d'abord en pédopsychiatrie, juste de la clinique de l'urgence, et je suis arrivée un peu par hasard du coup en protection de l'enfance, que je ne connaissais absolument pas, j'avais même pas travaillé en stage par exemple, et dans un service du coup bien spécifique qui s'appelle un SAMNA, donc ça veut dire effectivement service d'accompagnement aux mineurs non accompagnés. Et du coup, les mineurs non accompagnés sont des jeunes en fait qui n'ont pas la nationalité française et qui vont se retrouver séparés. Ça c'est vraiment la définition exacte de leurs représentants légaux sur le sol français. En fait, c'est des jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas de figure parentale, que ce soit du coup de la famille, enfin des parents ou oncles, tantes, enfin des personnes qui seraient proches en fait directement d'eux, et du coup qui sont considérés comme ce qu'on appelait avant les mineurs isolés étrangers. Donc clinique bien particulière parce que je n'avais pas en fait de connaissances, j'avais pas été formée spécialement sur la question du traumatisme. C'est quelque chose qu'on pouvait voir en cours comme ça, mais pas de façon vraiment très précise. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que ça nécessite quand même beaucoup de formation. Parce que c'est des questions vraiment particulières. Et ça marche aussi sur la protection de l'enfance, outre les MNA. Je pense que la question du traumatisme en protection de l'enfance, elle est aussi extrêmement présente. Et du coup également sur la question de la culture, qui est vraiment très très importante, enfin l'interculturel, le transculturel, dans ce service, mais finalement aussi un peu partout. Et on a tendance à beaucoup, j'irais pas jusqu'à dire l'oublier, parce qu'en fait on n'en a pas connaissance, donc de fait on ne peut pas l'oublier, mais on n'en a pas connaissance, et du coup ça vient, en fait je me suis rendu compte de l'impact et des biais que ça pouvait amener dans notre, enfin en règle générale dans le tous les jours, mais aussi du coup bien spécifiquement dans la question d'entretien clinique et de travail psychothérapeutique, qui c'est vraiment, enfin c'est vraiment extrêmement important en fait de prendre en compte ces questions-là. Donc d'où mon désir un petit peu d'essayer d'en parler, parce que je trouve que c'est une clinique vraiment particulière. Et que je ne l'aurais jamais rencontré si je n'étais pas allée travailler avec des MNA, ou du coup si j'avais pas travaillé dans le contexte de l'exil et de la migration. Alors que pourtant c'est des questions qui sont quand même très centrales, parce qu'il y a plein, même si c'est pas directement, mais au second ou au premier degré, en fait, de personnes qui sont exilées ou qui ont migré dans des pays différents. Donc c'est des choses qu'on peut rencontrer en fait quotidiennement aussi dans notre pratique ou dans notre vie à l'extérieur du travail, quoi. Voilà.
Parce que pour toi, donc, rencontrer des mineurs non accompagnés, donc qui arrivent sur le sol français, c'est automatiquement être prise dans la question du traumatisme.
Non, pas forcément. Justement, je m'étais un peu, ça faisait partie des choses. En fait, j'ai l'impression qu'on observe beaucoup, justement. Ça, c'est quelque chose que je peux voir en fait dans la pratique quotidienne dans une équipe pluridisciplinaire, mais aussi dans les médias ou dans des choses vraiment. Je trouve que dans le discours qu'on a en commun tous, la question du trauma, en fait, c'est un peu un glissement du mot, dans le sens où maintenant, en fait, un trauma, c'est un peu quelque chose qui pourrait être vécu comme étant violent, un événement qui pourrait être vécu comme étant violent. Alors que on n'est pas du tout, enfin moi, dans ma clinique, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus, dans l'idée du traumatisme psychique. Du coup, ce qui va faire trauma, c'est la rencontre avec le réel de la mort, même si c'est pas forcément, si on n'est pas directement confronté à quelque chose où on voit la mort. C'est vraiment cette question-là qui va en fait. Se mettre en place dans l'esprit du coup du sujet, et ça va ouvrir un peu une brèche avec tout ce qui est réaction d'effroi, réaction de sidération. Et pour le coup, moi je ne rencontre pas avec tous les MNA, parce que forcément chacun a sa propre, enfin ils peuvent me raconter des choses qui effectivement pourraient faire trauma, mais n'ont pas fait trauma parce que ça s'est inscrit quelque part dans une chaîne signifiante. Donc ils ont trouvé un sens en fait à ce qui s'est passé, là où d'autres n'auraient peut-être pas trouvé de sens. Donc il y a des jeunes que je vais rencontrer qui vont effectivement souffrir soit d'un traumatisme simple soit d'un traumatisme complexe, et d'autres qui vont être impactés par des choses sur le quotidien, mais ce sera pas forcément de l'ordre du trauma non plus, quoi. Donc c'est pas heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait sûrement compliqué, mais tout ne va pas du tout faire trauma dans le parcours de migration, le parcours d'exil, même si il y a confrontation à des violences ou à des choses vraiment compliquées, quoi.
Oui, puis je trouve que ça amène directement à l'idée du traumatisme, qui reste quand même un concept qui peut être imprégné d'une culture aussi, et oui. Que en tant que psychologue, enfin, et qui, par exemple, être un psychologue blanc qui grandit en France, etc. On a nos représentations de ce qui peut venir faire effraction pour un sujet, et que en fonction aussi du milieu dans lequel on a grandi, de ce qu'on nous a transmis en termes de valeurs, en termes de ressources, etc. Qu'il y a des choses qui peuvent d'autant mieux s'organiser que ce que nous peut-être on pourrait vivre, ou en tout cas projeter sur l'autre, comme à l'inverse d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus effractants. Pour des sujets qui, pour nous, dans notre culture, dans notre société, s'organisent d'une façon différente. Donc je trouve que même la question du traumatisme, et d'ailleurs de tout concept clinique, reste imprégnée d'une forme de culture, d'une société, de quelque chose du socius dans lequel on évolue.
En fait, moi je m'appuie toujours sur le discours du jeune que je vais avoir en face de moi. Mais en fait, ça me sert surtout à ce mot-là, il va me servir surtout par rapport aux relations avec les partenaires, par exemple, quand il y a besoin justement de pouvoir d'avoir un appui de quelqu'un d'autre, enfin d'avoir par exemple un appui d'un psychiatre, ou de pouvoir rendre un petit peu compte de l'état psychique du coup du jeune, c'est là que ça va me servir. Sinon, ça me, en vrai, ça me sert pas forcément pour moi ou pour le jeune. C'est jamais des choses qu'on va forcément aborder. On aborde les symptômes parce que du coup, alors j'aime bien utiliser avec les mineurs non accompagnés du coup une, parce que bon, chacun a un accès différent à la langue française déjà. Donc il y en a qui vont parler français parce qu'ils ont parlé français dans leur pays d'origine. Il y en a qui vont avoir appris le français et du coup il y a des mots qui sont encore très, voilà, on peut avoir des petits malentendus dans nos dans le sens de nos mots. Un très bon exemple qui moi m'a marqué parce que du coup c'était une des premières fois où je faisais un peu une erreur et en fait je m'en suis rendu compte à ce moment-là. J'ai demandé à un jeune qui était malien je crois s'il avait des copains. Et en fait, lui, copain, il a compris du coup des personnes avec qui il était, il avait de l'affinité où il pouvait avoir des relations sexuelles, alors que je voulais lui demander s'il avait des amis. Et en fait, il y a eu une réaction de sa part qui était entre guillemets justement de recul, de pourquoi elle me demande ça, comment ça se fait qu'elle rentre dans mon intimité, alors qu'en fait, on était juste pas d'accord sur le mot.
Et d'ailleurs, ça m'a a aussi un double sens en France et c'est
oui, c'est ça.
Et c'est souvent un peu d'ailleurs les adultes peuvent dire ah t'as un copain etc au sens où on peut entendre de oui t'as un pote ou oui, oui t'as un petit copain et je trouve que c'est toujours d'ailleurs intéressant comment c'est souvent les générations au-dessus pas forcément les personnes âgées mais des fois qui peuvent avoir ces questions directes comme est-ce que tu couches à la maison ou est-ce que tu couches avec telle personne pour dire que tu vas dormir? Est-ce qu'ils d'un coup, dans des moments d'adolescence, peuvent totalement effracter la représentation du sexuel dans des termes qui en sont pas là pour les personnes qui adressent la question? Donc je trouve ça intéressant.
C'est-à-dire que là où lui avait très peu, en fait, il avait appris le français, il avait très peu accès. On était encore sur des mots très simples. Moi, j'ai utilisé ce mot parce qu'il me semblait simple. C'était.
Bien sûr.
En fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même représentation. Et donc là, il y a aussi des jeunes qui ont vraiment très très peu accès à la langue française. On est vraiment sur du discours. Enfin, soit on fait un, soit on demande en fait à un interprète de pouvoir se rendre disponible pour qu'on puisse travailler avec l'interprète. Et là, ça va faciliter l'entretien. Soit, du coup, soit il n'y a pas d'accès à un interprétariat. Soit c'est vraiment sur un moment, en fait, un jeune vient et il a besoin là, de pouvoir en échanger. Bah, ça reste sur des mots très simples ou l'utilisation du téléphone qui va traduire. Et du coup, par rapport aux symptômes du traumatisme, en fait, j'ai trouvé une feuille, j'ai trouvé un support où, en fait, ils sont illustrés. Et c'est assez intéressant parce que ça fonctionne plutôt bien, je trouve, vu qu'on est sur un support visuel, en fait, on va retirer tout ce qui est question du langage pendant quelques instants. Et le fait que ce soit visuel, ça vient faire un peu un effet, je sais pas, tous sont exposés, ça vient faire un effet de, ah, bah, ça existe. Et finalement, ça va être ancré ça va venir prendre sens dans ce qu'on était en train d'en échanger. Et du coup, ces symptômes-là, un peu, qui peuvent être de l'ordre, bah, voilà, de difficultés qu'on a pu vivre, bah, ils viennent prendre sens dans le discours du jeune avant. Et c'est le seul moment où moi je vais utiliser cette question-là avec le jeune. Sinon après c'est juste, enfin le traumatisme, c'est la destination finalement de rendre compte d'une certaine façon du travail qu'on veut faire avec le jeune, et aussi peut-être de venir des fois expliquer des symptômes qui se vivent à l'extérieur, comme à l'école, comme à la maison, comme qui se vivent et qui ne trouvent pas justement de sens pour les personnes qui se questionnent par rapport à ça. Là, ça va venir leur apporter une explication d'une certaine façon et les rassurer et aussi orienter comment ils peuvent d'une certaine façon réagir. Il y a des personnes qui savent pas comment, qui où ça vient les questionner. Mais justement, ils restent sur ce questionnement, ils savent pas comment interagir avec l'autre, ils savent pas comment se positionner, et bah, pouvoir essayer de leur apporter quelque chose aussi de cet ordre-là, ça va les aider à pouvoir se positionner et se décaler finalement de cet état qui resterait un peu qu'est-ce que je fais, comment je me comporte par rapport à cette question-là.
Parce que toi, tu les rencontres dans quel cadre, ces jeunes? Comment ça se passe, ton travail?
En fait, au sein du SAM, comme c'est un service d'accompagnement, en fait, on a des appartements autonomes. Donc, il y a 50 places. Les appartements sont dispatchés. Il y a des studios, il y a des colocations 2 et des colocations 3. Et ils arrivent au service. Il y a un premier temps qui est, Et donc c'est après tout un parcours un peu du combattant, parce que des jeunes qui arrivent, du coup des jeunes mineurs qui arrivent sur le territoire français, en fait ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils donc s'ils ont de la chance, ils sont orientés directement dans un service qui leur permette d'évaluer leur minorité, on appelle ça comme ça. Et s'ils ont moins de chance, ils vont passer quelques temps soit dans la rue, soit avec des familles, pour qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va les orienter du coup vers ce service-là. Et en fait, au départ, c'est un entretien avec, alors je ne sais pas exactement qui sont ces personnes, mais du coup des personnes qui vont venir poser des questions aux jeunes, de l'ordre de pourquoi il est parti, de l'ordre de le parcours, et qui vont venir en fait évaluer si c'est cohérent ou pas cohérent, et du coup de s'ils viennent attester. Alors la question des papiers vient aussi beaucoup en... Enfin, très importante, parce que du coup si un jeune a des papiers, bah, peut-être ça va plus orienter la réponse vers oui que vers non. Enfin, et après il décide si effectivement ce jeune est placé à l'aide sociale d'enfance ou du coup il est déclaré majeur et il doit repartir. Et une fois ce circuit fait, s'il est déclaré du coup pris en charge par l'aide sociale d'enfance, il va aller dans ce qu'on appelle une unité de mise à l'abri. Cette unité de mise à l'abri, elle est là de façon temporaire, c'est-à-dire qu'elle va être là jusqu'à ce qu'une place se libère en foyer ou du coup en SAMNA, parce que les SAMNA, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que c'est à moindre coût qu'un internat. Et au niveau de l'âge du jeune aussi, nous, on a un agrément, je crois, à partir de 15 ans, mais ça arrive qu'on ait des dérogations et qu'on ait des jeunes de 14 ans. Et quand il arrive dans notre service, donc il est accompagné de son éducatrice de l'unité de mise à l'abri, Et il va participer un peu à une réunion, en fait, pour qu'on puisse se présenter, les intervenants qu'il a rencontrés. Dans mon service, il y a une assistante sociale et du coup des éducateurs. Donc ça permet un peu de venir voir, comment dire, différents corps de métier, mais aussi du coup ça va avoir différentes utilités au fur et à mesure de son passage dans notre service. Parce que l'assistante sociale sera très présente à la fin, en fait, pour tout ce qui va être... comment ça va se passer après la prise en charge, l'accès au droit commun, la question de la régularisation et tout ça. L'éducateur va être présent en fait sur la totalité, ça va être la personne référente du coup du jeune. Et du coup moi je suis un peu un maillon particulier, parce que l'idée c'est de proposer à chaque jeune de façon un peu dans le parcours d'entrée une première rencontre qui permette de un peu démystifier du coup ma fonction. L'idée, c'est, culturellement parlant, du coup, il n'y a pas, enfin, souvent dans les pays, il n'y a pas d'équivalence au métier du psychologue, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de leur part, ou alors qui est connu, du coup, sur par rapport à des séries ou à des films. Donc, très souvent, c'est du côté de la psychiatrie et de la pathologie, en fait. Je vois souvent des jeunes, quand je me présente et je leur propose en fait un premier entretien, qui vont me dire « Ah bah, je suis pas fou !» Et quand je leur demande, par exemple, en entretien, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent ce que c'est mon métier, qui vont me dire « Bah oui, j'ai vu dans des films, dans des hôpitaux, des choses comme ça. » Donc l'idée du premier entretien, c'est vraiment un peu de démystifier cette fonction-là, parce que dans l'environnement culturel et dans le champ sémantique du coup du MNA, il n'y a pas forcément la connaissance telle que moi, enfin telle que moi je de ma position telle que je la prends, plus de quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Donc cette question là et j'essaye de faire un peu un panorama, je sais pas, je l'appellerai pas forcément comme ça, mais je l'appelle comme ça aujourd'hui, de comment ça se passe pour le jeune en fait dans l'immédiateté. Si lui il a... J'essaye de laisser des ouvertures, donc si lui il a envie de parler de certaines choses comme du parcours ou de choses comme ça, ça peut s'aborder aussi au premier entretien. C'est vraiment l'idée, c'est que ma ligne directrice à ce moment-là, c'est de pouvoir faire justement une sorte de d'image de comment ça se passe maintenant, et de si lui aurait besoin d'étayage en fait sur un point, s'il est en demande de quelque chose. Et chacun va réagir en fait de façon extrêmement différente. Certains vont être un peu un peu ambivalents. Certains vont être au contraire très intéressés et vont me ressolliciter, et d'autres vont en fait être vont répondre à la demande, mais vont pas du tout être voilà, ils sont là parce que d'une certaine façon ils se sont sentis obligés d'être présents à ce premier rendez-vous, et voilà. Après ça, il y a des choses qui sont communes entre les cultures, c'est assez intéressant de voir que il y a des réactions similaires, Et après, il y a toujours la question du sujet, c'est à chaque fois différent. Mais sur le premier entretien, cette première approche, il y a vraiment des choses communes qui peuvent se retrouver, donc c'est assez intéressant. Et en même temps, donc il y a cette possibilité du coup de me rencontrer en entretien. Moi, j'ai cherché un petit peu aussi à aller ailleurs, c'est-à-dire que je sais que des fois, c'est difficile d'aller dans un bureau. Et culturellement parlant aussi, bah pareil, c'est quelque chose de très européen d'aller dans un bureau pour rencontrer des personnes. Donc de pouvoir faire un peu ce qu'on peut appeler, théoriquement parlant, un travail hors les murs. Et aussi du coup pour pouvoir en fait travailler avec tous les jeunes, même si je ne rencontre pas tous les jeunes en entretien, on a mis en place des groupes, ce qu'on appelle des groupes d'expression. Et du coup ça a un côté vraiment très intéressant. C'est tout ce qui est du coup un peu le caractère contenant du groupe. Et il y a vraiment la question de l'autre. Ça va être intéressant de pouvoir du coup les mettre certains jeunes ensemble qui ne se connaissent pas forcément, parce que ça va la question de la culture, elle revient toujours. Alors des fois c'est pour venir un peu différencier les uns des autres, des fois c'est pour venir nous rapprocher. On aborde vraiment beaucoup de choses, mais ça vient rompre un peu l'isolement de certains jeunes. Ça peut venir du coup travailler sur l'envie d'appartenance du groupe, qui est parfois plus présente en fait finalement de fait de symptômes ou de fait de difficultés. Et ça vient aussi, moi je trouve que ça fonctionne assez bien, constituer de nouvelles affiliations, parce que en fait ils s'inscrivent pas forcément à leur arrivée s'ils n'ont pas été accompagnés peut-être d'autres personnes du même de la même culture, ou de, il y a des jeunes qui sont très seuls en fait, et ils arrivent, il se passe quelque chose qui fait qu'ils sont un peu à l'arrêt, et du coup le groupe va venir aussi mettre une nouvelle dynamique. Et c'est assez intéressant. Donc cette possibilité-là, et beaucoup du coup de travailler avec les équipes en fait pluridisciplinaires, parce que même si je travaille pas forcément avec tous les jeunes directement, les équipes, que ce soit l'assistante sociale, les éducateurs ou le chef de service, ils ont souvent besoin aussi d'un autre regard sur les situations pour des questions bien spécifiques, ou même pour faire un peu un cas global, voir comment on peut accompagner au mieux les jeunes. Donc il y a ces trois points du coup un peu de ma fonction au sein de ce service là, quoi.
Parce que du coup t'as une fonction plus d'un apport à potentiel thérapeutique pour le jeune, ou ta fonction elle est plus du côté aussi d'orienter sa prise en charge,
ouais.
D'orienter son parcours, parce que ça je trouve que c'est deux postures différentes, même dans peu importe les institutions, de est-ce que tu participes à un mouvement d'une équipe pour cibler une prise en charge, cibler une demande, ou justement le fait d'être placé ou pas placé, etc., ou est-ce que des fois t'as des possibilités, ce que j'espère aussi en tant que psychologue, de revendiquer un pas de côté aussi face à une écoute différente, donc aussi un discours différent, et la possibilité d'orienter aussi cette rencontre du côté de là où se situe la personne, et pas des attentes en même temps d'une équipe pour affiner une prise en charge et un parcours pour le jeune.
Bah, ça va vraiment dépendre. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'ai vraiment assez de liberté. Ça va vraiment dépendre. En fait, il n'y a pas une prise en charge qui est la même du tout. Même moi, je me rends compte que ce que je vais proposer, c'est toujours très différent. Parce que en fait, avant quand je travaillais du coup en pédopsychiatrie, j'étais dans un cadre du coup où les personnes avaient une demande, les personnes venaient. C'était des enfants aussi, du coup, donc soit la demande venait directement des enfants, soit la demande venait des parents, mais il y avait vraiment, en fait, cette question de la demande qui n'existe pas en protection de l'enfance, ou très peu. Donc, en fait, ça a beaucoup changé ma pratique. C'est vraiment du sur-mesure. Enfin, j'aime bien parler un peu de la notion de bricolage, parce que du coup, j'ai vraiment l'impression que, en fonction de la rencontre, et de comment le jeune va investir un peu la question du coup de ma présence et de ce que je peux lui apporter, ça va rendre chaque prise en charge extrêmement différente. Et on voit bien, il y a des jeunes du coup qui investissent la prise en charge au point de demander vraiment en fait à me rencontrer très régulièrement, d'autres qui vont du coup être plus inscrits dans un travail vraiment psychothérapeutique avec on pourrait être sur une prise en charge libérale ou de CMP par rapport à cette à cette question-là, quoi, un investissement et du coup d'aborder des, enfin d'avoir un rapport au discours qui est vraiment très libre, qui est enfin qui est de cet ordre-là, et on va avoir d'autres qui vont venir en fait peut-être sur une question bien précise, qui disent avoir besoin d'aide sur et avoir besoin en fait d'un espace autre pour pouvoir du coup réfléchir d'une certaine façon sur des questions bien précises. Et par rapport aux équipes, ça va dépendre de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des situations sur lesquelles il y a des choses qui sont possibles, ou dans le sens où effectivement de par une réflexion, de par une analyse, ou de par un échange vraiment avec des questionnements, il y a des pas de côté qui seront possibles. Il y a des situations où c'est vraiment très très renfermé en fait, où finalement les défenses des équipes sont on sent que ce sera difficile de pouvoir ça va être pris comme étant quelque chose de très frontal, et du coup au contraire ça va venir encore plus filer la situation que du coup la pouvoir faire autrement, on va dire. Mais ça dépend vraiment des situations, et je pense que la question enfin on est quand même face des fois à les éducateurs, ils font ce qu'on appelle le récit de vie. Parce que quand on arrive à 18 ans, en fait, et qu'on demande auprès de la préfecture, du coup, une régularisation, donc au niveau des papiers pour avoir un titre de séjour, les personnes qui le font doivent faire ce qu'on appelle un récit de vie. Et le récit de vie, du coup, l'idée, c'est de pouvoir raconter, en fait, comment ça se passait au pays avant, qu'est-ce qui a amené au fait de partir, qu'est-ce qui justifie, entre guillemets, le fait de pouvoir quitter le pays et d'arriver en France, et le parcours, comment ça s'est passé, par où on est passé, enfin toutes ces questions-là, encore un peu de il faut justifier le fait d'être présent, peut-être y aurait un doute sur la légitimité, voilà, ça c'est ce que ça peut renvoyer pour les jeunes, mais du coup il y a cette question-là, et cette question-là elle est compliquée parce que déjà c'est difficile pour le jeune, mais aussi comment on travaille avec l'éducateur. Parce que il va être aussi à même des fois d'entendre des choses qui sont très compliquées, et on sait pas trop comment des fois lui va aussi avoir lui-même ses propres mécanismes de défense, ou va être lui-même confronté à des choses qui vont lui faire écho à son histoire personnelle et tout ça. Donc ça peut être compliqué, et dès qu'on aborde en fait la question quand on est sur du pratico-pratique ça va, parce qu'on est quand même beaucoup sur du pratico-pratique, mais dès qu'on aborde la question de l'histoire et de quel impact ça peut avoir et tout ça, c'est vrai qu'on peut être face à des défenses compliquées. L'exemple que je pourrais prendre, c'est un exemple récent sur c'est pas une situation mineure non accompagnée, mais une situation de protection de l'enfance. Une jeune fille qui approche 18 ans, qui en fait est dans une situation de prostitution. Et là on est en fait là où nous on va se dire avec un regard un peu tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, même si la jeune n'est pas réceptive, ça va avoir un impact. On va mettre un peu on va faire une petite pile de Lego, et peut-être qu'au bout d'un moment ça va avoir un effet. Ben, en fait l'équipe la jeune fille en fait n'arrive pas à investir à l'image du fait qu'elle peut pas investir ses deux parents en même temps, elle ne peut pas investir deux institutions en même temps. Donc en fait, elle fait d'une institution le bon objet et d'une institution le mauvais objet. Notre institution est le mauvais objet, et en fait, l'institution, du coup, les éducateurs sont confrontés à cette place-là. Elles vivent de façon extrêmement difficile, et donc en fait, sont dans le rejet, vont être dans le rejet et ne vont pas percevoir que chaque petite chose peut être importante. Et du coup, sur ce point-là, j'arrive pas forcément à intervenir. Parce que c'est quelque chose de trop ancré d'une certaine façon, et ça pourrait venir être plus finalement pas bénéfique pour l'histoire. Mais ça dépend vraiment de la situation, je pense. Il n'y a pas de globalité.
Ça c'est vrai que c'est régulier un petit peu dans les institutions. Un peu d'avoir envie de sauver certains jeunes, et encore plus, je trouve, en protection de l'enfance, il y a quelque chose quand même qui vient parler de soi directement, qui vient nous chercher. Et moi, j'ai pas travaillé en protection de l'enfance, mais j'ai travaillé en pédiatrie. Et je trouve que c'est complexe parce que Il y a un peu cette idée de bah, je te sauve, mais dans quelque chose quand même d'un élan assez narcissique, hein, pourquoi pas, mais qui du coup a parfois du mal à être transformé quand l'autre ne répond pas présent à justement cette main tendue et de ce que ça peut faire vivre. Et c'est vrai que pour moi, justement, la posture du psychologue là dans ces institutions, c'est de venir quand même pouvoir un petit peu décaler ça. Cette idée aussi de et encore plus je trouve dans des milieux où la question de la culture, du fait de trouver ancrage, etc., prend d'autant plus de place parce qu'en fait on se met parfois dans une place, voilà, encore une fois d'institution au sens de je vais être de nouveau ton père ou ta mère, donc je vais te donner de la nourriture, je vais te donner mon écoute et donc tu me dois d'une certaine façon d'y répondre et d'être aussi un bon objet au sens un bon patient pour continuer cette boucle un peu de valorisation des professionnels en se disant bon ça va, on se lève pas pour rien parce qu'en fait il y en a plein qui nous attendent, etc. Et j'ai toujours été un peu malmenée, je trouve, par ce que peuvent vivre certains professionnels qui n'ont pas justement accès à ce type de formation, mais c'est pas au sens d'une critique, tu vois, parce qu'en fait on fait pas le même métier, mais qui du coup peuvent être d'autant plus malmenés par ces patients qui ne répondent pas à la demande de soins, ou en tout cas qui répondent mais de façon inattendue ou décalée, etc.
Et ça fait un peu ça fait un peu cercle sans fin, parce qu'en fait disons moi je le pratique au quotidien, du coup cette question un peu de ben voilà, si tu réponds pas finalement à ce qu'on peut te proposer, il va y avoir la question du rejet, sauf qu'en fait le rejet c'est revivre quelque chose, c'est sans fin cette histoire là et du coup c'est vrai que c'est une question extrêmement importante, et des fois en fait ça va aussi dépendre des professionnels. Il y a des professionnels qui vont être plus à même de pouvoir entendre et se décaler, et d'autres qui vont plus se braquer effectivement et être, donc c'est un travail, c'est intéressant aussi le rapport avec l'éducateur. Moi j'avais jamais travaillé avec du coup des personnes qui sont éducateurs, donc c'était aussi moi je trouvais ça extrêmement intéressant parce que j'avais toujours travaillé que avec des personnes qui parlaient le même discours que moi dans le soin, et du coup de pouvoir travailler avec des personnes qui ont une autre fonction, j'ai trouvé ça très intéressant. Et par contre ça a été c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans je peux dire que je travaille correctement avec tout le monde, mais ça a mis 2 ans vraiment, parce que c'est justement comment trouver une façon de travailler ensemble, parce que c'est pas toujours facile de justement venir solliciter quelqu'un qui n'est pas du même corps de métier que toi en lui posant des questions, parce que bah il y a aussi oui, effectivement la question du narcissisme. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, des fois on n'est pas, enfin comment je peux faire mieux, qu'est-ce que j'en comprends, comment je m'adapte. Enfin il y a vraiment, certains éducateurs vont directement être partie prenante de ces questions-là et de la réflexion, et d'autres vont en fait le vivre comme étant touché à quelque chose, enfin touché à une posture professionnelle du coup qui ne peut pas être questionné en fait. Et du coup c'est intéressant de voir que bah le temps, parce que moi ma position elle a pas changé en 2 ans, enfin elle a sûrement changé sur certains points, mais sur le travail pluridisciplinaire elle a pas changé, et du coup l'adaptation se fait aussi avec le temps finalement. Et maintenant en fait on travaille tous de façon, enfin on travaille ensemble avec chaque éducateur du coup et avec l'assistante sociale, toujours de façon différente, parce qu'il y a la question de la personnalité du professionnel et de comment lui travaille, mais par contre on travaille tous ensemble, donc c'est intéressant aussi de voir les effets que simplement le fait du temps peut avoir, quoi.
Bien sûr. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. On se retrouve pour la seconde partie d'ici quelques jours, si vous écoutez le jour de la sortie de cet épisode. N'hésitez pas déjà, à ce moment même, commencer à nous faire des retours. Et surtout, vous allez voir, la seconde partie est particulièrement intéressante sur toutes les thématiques abordées. À très bientôt, salut! We'll be right back.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.